Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC pour les GG, pour les grandes gueules. Le rendez-vous tous les jours de la discussion, du débat, du témoignage. On vous attend au 32-16. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. On est content parce qu'il y a une nouvelle aujourd'hui.
Alors d'abord, on va présenter
j'ai
les...
pas ça pour les vieux.
On va présenter les dinosaures, les vétérans.
Les dinosaures.
Les dinosaures, Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Frédéric Farah, professeur d'économie, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes les dinosaures, vous salue.
Et puis donc, alors, pour ton info, le dinosaure, il est triple champion d'Europe.
C'est vrai.
Chevalier de la Légion d'honneur et champion de France. Voilà.
C'est vrai.
Et accessoirement, il a dû vendre environ 100 millions de bouquins.
Et nous sommes avec la
donc
petite
nouvelle. Se porte bien.
T'as vu? Oui. Ah ouais. Et là, c'est une attaque de brontosaure, là.
Nous sommes donc avec la petite nouvelle. Elle s'appelle Julie Martinez. Elle est juriste.
30 ans. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Directrice juridique dans une boîte tech qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle.
Yes, ouais. Exactement.
Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui puisqu'on a le docteur Laurent Alexandre qui sera avec nous tout à l'heure et qui nous explique que ChatGPT va nous rendre immortels.
Ah bah, venu des dinosaures.
Venu de banlieue parisienne.
Ouais, c'est ça, j'ai grandi à Sarcelles.
Grandi à Sarcelles, études supérieures.
Ouais, 3 masters de droit, je suis devenue avocate et puis aujourd'hui je travaille dans une boîte tech.
A travaillé aussi... à la manière anglo-saxonne, avec des cabinets d'avocats américains.
Exactement, je suis passée par des cabs américains. Cabinets d'avocats d'affaires.
À de si belles études pour finir aux grandes gueules.
Oh là là.
Oh là là.
Hey. Ben, faut bien que je m'amuse.
Alors, Julie va passer les 3 heures avec nous, avec Frédéric, avec Mourad. Que va-t-il se passer dans ces 3 heures de GG Olivier, vous l'a annoncé. Franchement, tout à l'heure à 11h20, ça, c'est passionnant de parler de l'intelligence artificielle avec le docteur Laurent Alexandre. Il est chirurgien, il est énarque. Et aujourd'hui, le ChatGPT, dit-il, va nous rendre immortels. Nous sommes dans le transhumanisme. Mais ce transhumanisme risque d'être à 2 vitesses. C'est peut-être pour une élite dont l'esprit survivra à travers les âges. Ouais. Et puis, il y aura le reste de la population. Mais est-ce qu'on a envie de ce transhumanisme? Est-ce qu'on a envie de devenir immortel? Ce sera le débat tout à l'heure à 11h20. On va recevoir aussi un homme en colère qu'on connaît bien dans les GG tout à l'heure à 10h. C'est le producteur-présentateur Bernard de la Villardière de Zone Interdite d'M6 parce qu'il s'est fait accueillir de manière plutôt fraîche à l'aéroport de Roissy alors qu'il rentrait du Pérou. Accueilli, dit-il, par des traînes savates qui l'ont insulté, traité de raciste. Il dit la police bouge pas, c'est le bordel, mais bienvenue en France. Donc il viendra s'exprimer.
Très, très énervé, Bernard.
Il viendra s'exprimer dans les GG tout à l'heure à 10h. Premier sujet de discussion, les amis, ces familles délinquantes qui se retrouvent expulsées de leur HLM. Ça se passe du côté de Taverny et c'est le préfet du Val-d'Oise qui a pris cette décision.
RMC, les grandes gueules.
Expulsion d'une famille de leur HLM à Taverny, décision prise dans l'intérêt des habitants. On va écouter le préfet.
Cette famille-là, j'ai aucune pitié préfet, pour elle. Parce que quand les parents étaient convoqués dans le cadre d'un conseil des droits et devoirs des familles, suite à tout ce qui se passait dans ce quartier, au saccage fait par leurs gamins, ils ne se sont même pas présentés. Là, c'est 2 enfants, c'est pas 1. Et on a une famille qui ne voulait pas prendre les mesures nécessaires au sein de son foyer. Donc on n'est pas du tout dans un cas, si vous voulez, de difficulté sociale ou d'une famille monoparentale où le parent aurait des difficultés et serait armé de bonne foi. Ce n'est pas le cas d'espèce.
Pardon, mais c'est la maire de Taverny, Madame Portelli.
Oui, parce que c'est vrai que dans son message, la préfecture énumère les faits de délinquance qui ont conduit les autorités à prendre la décision d'expulser cette famille. Et quand même, le pédigré est assez impressionnant. Vol en réunion avec violence, dégradation et vandalisme dans un établissement scolaire, usage, détention et transport de produits stupéfiants et escroquerie en bande organisée. Le ministère de l'Intérieur avait demandé récemment au préfet une fermeté systématique envers les auteurs de violences urbaines avec l'expulsion de leur logement social et pour assurer la possibilité, assurer de la possibilité de ces expulsions, parce qu'on est dans un état de droit, la place Beauvau cite des articles du Code civil qui assurent noir sur blanc que la réalisation d'un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation constitue une atteinte à l'usage paisible de son logement. Sur ce fondement, un bailleur peut saisir le juge civil pour que ce dernier prononce la résiliation du bail de l'habitation et l'expulsion de tout occupant pour établir la tranquillité des lieux. Donc, a priori, le droit est respecté. Est-ce qu'il faudrait élargir et en tout cas systématiser le fait que quand on est face à une, avec une famille de délinquants, c'est-à-dire les enfants mais les parents le sont aussi, on expulse ces gens-là de leur HLM.
Expulsion systématique en cas de délinquance, famille, enfants, des HLM, hein, faut le rappeler. Hein. 32-16 pour en parler avec Julie, je te voyais acquiescer, oui, tu es d'accord ?
Alors, est-ce que je suis d'accord ? Non, bon, en tout cas, c'est une décision de justice, donc je ne vais pas venir la contester, hein, comme vous l'avez dit, le bail a été résilié par un tribunal. Après, moi, ce que je me demande, c'est... ils vont aller où ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est quoi la suite ? Est-ce qu'ajouter de la précarité à de la précarité, ça ne crée pas plus de chaos ? En même temps, on pense aussi aux pauvres familles qui vivent dans le même immeuble, qui, elles, travaillent sûrement très dur, veulent juste avoir une vie normale. C'est juste que voilà, je m'interroge sur la suite. Expulser une famille qui a vraisemblablement de grosses problématiques pour en finir avec des enfants si délinquants, qu'est-ce qu'on en fait après, quoi ? Je ne sais pas.
Fred,
première question, où sont-ils maintenant ?
Ouais, voilà.
Où sont-ils, ces gens ? Je veux dire, ils sont
à la limite, on s'en fiche ?
Non, on s'en fout pas parce que
ce sont des délinquants.
Non, mais pourquoi on s'en fout pas ?
En prison peut-être.
Non, mais pourquoi on s'en fout pas ? Je veux pas anticiper sur le prochain truc, mais pourquoi on s'en fout pas ? Parce que si ils vont poursuivre leurs affaires ailleurs, ils vont pourrir la vie d'autres ailleurs, ben on s'en fout pas parce que je veux dire si
ça comprends ce que tu veux dire.
Si dans le fond, ça leur
on éloigne le problème ailleurs.
Voilà. C'est-à-dire, c'est comme on l'avait vu parfois quand on expulse parfois certains élèves, on ne sait pas quelle est leur histoire. Ils arrivent dans un autre collège ou un autre lycée et ça ne règle pas le problème. Mais en fait, on a refilé la patate chaude à un autre. Donc en fait,
peut-être que ça va les calmer.
Oui. Alors ça, il y a toujours cette espérance en disant tu es sur le trottoir, tu as fait le con et maintenant tu seras calmé. Alors j'aimerais que ça marche, mais je suis pas toujours sûr. Pourquoi pas. Après,
là, déjà, c'était dans l'intérêt, comme le rappelait Julie, aussi des habitants
qui n'en pouvaient plus
du logement, du HLM.
Non, déjà,
ils ont retrouvé une espèce de
sérénité.
Ils ont retrouvé une espèce de sérénité. Là-dessus, il n'y a rien à dire parce que
c'est à eux qu'il faut penser en premier.
Ouais, mais ça résout un problème temporaire, c'est-à-dire que ça résout pas le problème dans son ensemble.
Non, mais je suis d'accord. Et je suis allé regarder qu'ils étaient, à quelles conditions on pouvait expulser.
Vous avez choisi votre camp, vous, celui des délinquants, je le remarque.
Oui, exactement.
Donc, tu voulais dire quoi ? Parce que les conditions étaient respectables.
Voilà, c'est ça. D'expulsion. Donc, les conditions ont été... Parce qu'au départ, je me suis dit... Il fallait vite que je regarde ça, parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est en gros la mesure punitive en disant, tu vas voir ce qui va t'arriver ? Ou au contraire, il y a un vrai fondement juridique ? Oui, il y a un fondement juridique. Mais non, la question, il y en a deux... un, très bien pour les autres voisins, ils sont contents. Première question, c'est que vont-ils devenir ? Est-ce que la délinquance qui était sur le quartier A va pas finir le quartier B ? Et deux, est-ce que c'est efficace à terme pour généraliser la question, pour permettre à faire une réduction de la délinquance ?
Après, il faut quand même préciser que c'est un logement social.
Oui.
Donc c'est de l'argent public.
Bien sûr.
Mourad ?
Moi, j'ai plusieurs réflexions. La première chose, c'est que les situations sont évolutives, la loi l'est beaucoup moins. Ce qui veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, la loi est un peu dépassée et qu'il faut la revoir. Alors, moi, je serais pas contre qu'on revoie les choses et qu'on gère le présent par de la répression, et tout en mettant aussi de la prévention. Mais si on met pas de la répression, on n'y arrivera pas, parce qu'il y a des cas aujourd'hui qui sont, j'allais dire, plus sauvables, mais qu'il faut arrêter, stop. Parce qu'on peut pas sans arrêt culpabiliser, être dans une société qui le plus culpabilise quand il y a un délinquant et qui se dit c'est ma faute parce qu'on l'a pas su l'insérer, parce que si, parce que ça, et que donc, comme on a pas été bon, eh ben, on va essayer de l'aider, et puis, tu sais qu'un chien te mord, tu peux pas passer ta vie à le caresser pour qu'il arrête de te mordre. Ça marche pas tout le temps. Alors, on pourrait même aller jusqu'à envisager, si on continue sur ce raisonnement, et moi je pose la question, un HLM, pour obtenir un HLM, on a besoin de... C'est lié à des revenus. Mm-hmm. Bon, est-ce qu'on pourrait aussi le lier à un casier judiciaire vierge ?
Ah bah c'est une proposition, pourquoi
puisque
pas ?
Puisque c'est lié à...
Bah
c'est
aujourd'hui
c'est l'argent d'État, c'est l'argent des Français. Est-ce que pour revendiquer un HLM aujourd'hui, est-ce qu'on devrait associer un casier judiciaire vierge ?
Ouais, mais bon, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir fait d'erreur dans sa jeunesse, on ne peut pas avoir fait d'erreur dans son passé. Alors, et aujourd'hui, vivre au présent, une difficulté financière qui fait qu'on a besoin d'un logement social. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment la vraie solution. Là, on n'est pas vraiment sur la question de à qui est-ce qu'on va donner un logement social. C'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on fait. En fait, pour moi, la décision du tribunal, elle vient juste résilier le bail. Bon, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on fait après ? Comment est-ce qu'on accompagne accompagne cette famille pour qu'elle se réinsère quand même dans la société avec des gamins qui sont aujourd'hui clairement délinquants.
Non mais Julie Mourad pose une bonne question. Aujourd'hui, pour obtenir certains emplois, tu as besoin d'avoir un casier judiciaire.
Oui, mais dans le service public, aujourd'hui, là,
aujourd'hui, un dealer, il va très très bien gagner sa vie, il peut faire une demande d'HLM, hein, puisque fiscalement, oui. il sera à zéro. Voilà, donc il peut faire et à côté de ça, tu vas te récupérer. Je dis pas qu'il faut le faire. Je pose la question aujourd'hui, est-ce que pour obtenir un avantage qui est financé par de l'argent public, est-ce qu'on ne doit pas, face à ça, avoir certaines obligations?
C'est tout. Oui, alors la question c'est, tu dis tout est dans l'interprétation. Qui interprète? C'est ça la question, parce que le problème, on va donner un pouvoir quand même presque judiciaire à quoi? Une autorité laquelle? C'est-à-dire l'office des HLM,
au
bailleur, etc.
Il peut y avoir une commission qui décide.
Oui, mais après...
Ça ne peut pas être une personne.
Parce qu'il faut, à mon avis, qu'il y ait un contrôle.
Ce que pose comme problème sur la table, Mourad, c'est la question des droits et des devoirs. Donc là, tu as le droit à un HLM.
Il y a déjà des devoirs.
Non, mais on t'aide parce qu'effectivement, tu n'as pas les moyens d'aller dans le parc privé. Donc, c'est finalement la collectivité qui permet d'avoir un logement à bas prix, en tout cas avec un loyer modéré. C'est nos impôts. Et donc, c'est normal derrière qu'on puisse demander aussi à la personne qui va avoir ce logement des garanties.
Oui, mais c'est ce
qui se
passe
aujourd'hui. Demande d'ailleurs dans le privé.
Et
la garantie, ça peut être aussi un comportement, ça peut être aussi un casier judiciaire. Et pardon, mais je vous entends dire tous les deux, là, Julie et Frédéric. Non mais ça va reporter le problème.
Gronder.
Non, c'est pas ça, mais je comprends ce que vous dites. Ça va reporter le problème parce que cette famille, on va l'expulser et peut-être qu'on va la mettre dans un autre HLM. Néanmoins, quand même, régulièrement au 32-16, on a des témoignages de familles qui sont excédées. En fait, il y a une famille qui fout le bordel et c'est tout l'immeuble qui subit avec les gamins qui se comportent mal, les parents qui laissent faire, etc. Et donc... très bien. Quelle est votre solution? Parce que finalement, vous dites que c'est pas la bonne solution. Mais alors, quelle est la bonne solution?
Le camp du bien et du laxisme.
Non, mais il y a comme un accompagnement.
Le camp du bien et du laxisme va réagir immédiatement avec fermeté.
Allez.
Avec fermeté, parce que là,
je vous ai pas traité de laxiste.
Non, c'est moi.
Il y a une attaque croisée qui arrive.
Je le confirme.
Il y a un missile qui arrive là et un autre qui arrive là, donc il faut essayer de se protéger.
Alors, vas-y, Fred et puis Julien.
Bon. Eh ben, la question est de savoir. Il va falloir y répondre, la réponse judiciaire, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Je sais pas, on peut par exemple les pousser à faire des travaux d'intérêt généraux. On peut, les accompagner pour une formation ou des stages d'insertion.
Ça fait juste longtemps qu'on fait ça.
Ils ont déjà été condamnés.
Je sais, mais parce que je me dis, c'est pas une question laxiste. Un être humain reste un être humain, qu'il est tout cassé ou pas cassé, où on les met. Moi, je veux dire,
Raison, c'est qu'il faut pas rentrer dans l'illusion qu'en les ayant expulsés, on a réglé le problème. Si, on a réglé le problème pour les voisins.
Évidemment que là, la résiliation du bail fait sens. On n'est pas laxiste. On comprend tout à fait qu'il y a un désordre au sein de l'immeuble. La décision a été prise par un tribunal. On la conteste pas du tout. Ce qu'on dit, c'est que c'est une solution immédiate qui va pas résoudre un problème que de nombreuses familles connaissent sur le territoire français et qui va pas pouvoir être résolu par une solution magique. Il y a tout un accompagnement de la société qui doit avoir lieu dans l'environnement même de cette famille-là. Est-ce que les gamins sont laissés à eux-mêmes? Est-ce que c'est
les gamins, ils ont 18 et 23 ans, les gamins.
Les gamins, si tu les croises la nuit, je crois que tu seras content.
Non, mais je veux dire, c'est pas suffisant juste de les déplacer. Il faut pouvoir accompagner cette famille qui vraisemblablement a fait face à des difficultés.
Alors, Jérémy nous appelle de Vendée. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour.
Vous avez entendu, Mourad fait une proposition. Pourquoi pas penser à effectivement avoir un casier judiciaire vierge pour obtenir un HLM? Est-ce que quand il y a des actes de délinquance, on doit systématiquement expulser? Qu'en dites-vous, Jérémy?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Julie, la nouvelle intervenante vient de le dire. Effectivement, c'est une solution temporaire.
Merci.
Mais c'est temporaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas généralisé. Si demain, c'est généralisé à tout le monde, les gens, ça va les amener à réfléchir autrement. Moi, je prends mon cas à moi, et comme c'est le cas de nombreux Français en France, si demain je ne paye plus les échéances de mon prêt, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, on va mandater un huissier. Moi, je vais dégager de l'appartement. Ils vont reprendre la propriété. Puis voilà, que j'ai des enfants ou pas, la seule chose que j'aurais fait, c'est juste de ne pas payer. Là, en l'occurrence, c'est de dégrader, de faire des délits tout autour. C'est grave, et d'autant plus que c'est avec des logements des logements sociaux. Donc, au bout d'un moment, non. Un petit peu de fermeté, ça ferait du bien. Et
justement, donc, vous voulez systématiser ça, Jérémy ?
Ben, du coup, ça ferait plus régler une solution temporaire. Justement, ça amènerait les gens à réfléchir avant de faire des conneries.
Mmh. Oui, il faut vraiment remettre dans la tête des gens que faire une connerie, c'est grave et que c'est important et que ça a des conséquences par la suite. Mais tant qu'on pense que faire des conneries, ça a des conséquences minimes parce que la société, elle s'auto-culpabilise sur le mec qui fait des conneries. On n'y arrivera pas. Il faut gérer le présent. Et puis, il faut la priorisation des choses. Aujourd'hui, on va d'abord s'occuper du bien-être de la majorité. On est dans un immeuble. On va s'occuper du bien-être de la majorité. Puis après, on va passer à la minorité. Ouais, mais d'abord, la majorité.
Oui, mais je suis d'accord. Il y a un principe qu'il faut absolument défendre. Libre et responsable. C'est un principe fondamental. La liberté va avec la responsabilité. Et on peut pas imaginer l'un sans l'autre. Alors, pour réagir à ce que disait Olivier tout à l'heure, il faut laisser se débrouiller. Mais ils vont se débrouiller contre nous.
Mais non, ils iront se loger ailleurs dans le privé.
Non.
Moi, je pense que les Français ne veulent plus finalement que leurs impôts servent à financer des gens qui ne se comportent pas bien, tout simplement.
Après,
tu peux envisager une période d'observation où si pendant 3 ans, il y a rien à signaler, ben, tu peux à nouveau revendiquer.
Mais quand je dis vendre du HLM,
ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'est le préfet qui agit. C'est le préfet, c'est pas le bailleur. Ça pose aussi la question de la manière dont les HLM sont gérés. Souviens-toi, il y a pas très longtemps d'ailleurs, on avait une grande discussion sur les revenus. Mmh. Ces gens qui restent dans les HLM alors qu'ils ont dépassé largement le plafond de revenus, ou dont les enfants sont partis et qui restent seuls dans des appartements qui font 80 ou 90 mètres carrés.
Il y a aussi pas mal d'élus.
Bah, tu vois, là, tu dis c'est dégueulasse.
Oui. Bah oui, parce
c'est pas plus dégueulasse qu'avoir une famille de délinquants.
J'ai pas dit que la décision était injustifiée. Je le répète, il faut faire preuve de fermeté. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pense pas à la suite.
Pas de dormir.
On ne pense pas à la suite, cette famille-là, qu'elle aille dans le privé ou dans un logement social, va reproduire la même chose.
L'intérêt, c'est de les déloger pour avoir une famille. Il y a 3,5 millions de personnes aujourd'hui qui attendent des logements HLM. Hein.
Ben, je sais bien. Ouais.
Donc, si tu veux, eux, ils prennent la place de famille tout à fait normale.
Mais je ne conteste pas cette décision.
Il ne faut pas faire
le tri. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que ça pose la question de savoir comment sont gérés les HLM, parce que finalement, si le préfet ne prend pas la décision, cette famille de délinquants aurait pu rester encore là, ad vitam aeternam.
Comment sont gérés les HLM, on sait tous très bien ici, on ne va pas se mentir, qu'il y a une part de piston incroyable, tu as plus de chances d'avoir un HLM si tu connais que si tu connais pas.
Jérémy, merci d'avoir été avec nous. Généralisation, on fout dehors du HLM les gens qui sont impliqués dans des faits de délinquance. 32-16 pour continuer d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, avec aujourd'hui la juriste Julie Martinez, avec Frédéric Farrel, professeur d'économie, et avec l'homme aux 100 millions d'albums BD vendus. Parce que moi, il faut de temps en temps, tu sais, un peu
plus. Ouais, c'est
des légos.
Il y a 100 millions d'albums vendus, 3 titres de champion d'Europe.
Alors, n'hésite pas. Quand tu as envie, tu peux, n'hésite pas.
Voilà. Oui, non, mais on a commencé par les dinosaures et à la fin, ça finit par l'apothéose.
Allez, et on vous attend au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules, les GG, on débat, on discute avec vous, on écoute vos témoignages. Vous nous appelez au 32-16 pour nous dire ce que vous pensez. Aujourd'hui, Mourad Boudjela, elle est là. Avec Frédéric Farah, Mourad qui est éditeur de bande dessinée, Frédéric professeur d'économie, et une petite nouvelle dans la bande, une juriste, Julie Martinez.
Tout se passe bien, Julie?
Ouais, trop bien. Merci.
Trop bien.
Ouais, attends.
C'est le début, tu vas voir.
De quoi parle-t-on? D'une famille délinquante qui s'est retrouvée expulsée de son HLM, est-ce qu'il faut le généraliser désormais et même avoir demandé des casiers judiciaires vierges? Hervé, bonjour.
Oui, bonjour, ça va les gars?
Qu'en dites-vous?
Moi, je suis d'accord sur le fait d'expulser ces personnes, en fait, parce que c'est inadmissible. Moi, personnellement, vous voyez, ça fait 3 ans que j'attends un HLM. Je suis marié, je viens d'avoir une petite fille de 3 mois. Donc elle a 3 ans maintenant.
Merci
beaucoup. Et quand on entend ça, en fait, quand on voit des gens, en fait, qui profitent des aides de l'État et qui, au final, contribuent à détruire cet État, pour ainsi dire, même si dans leur tête ils ne le pensent pas, c'est inadmissible, quoi. J'ai envie de dire.
Donc vous dites dehors.
Voilà, ouais. Ah, maintenant, voyez ce que ça fait, en fait, de devoir trouver un appartement par soi-même, de galérer parce que, on n'a pas de cautionnaire, parce que faut 3 fois les montants du loyer dans le privé, et que, malgré d'être à deux, avoir un couple et gagner sa vie, travailler honorablement, pour ainsi dire, on peut pas avoir de logement, quoi. Alors, ou tout du moins, on galère.
Oui. C'est Hervé regarde son quotidien par rapport à d'autres et pour vous, il y a peut-être une espèce de quoi, de laisser-faire, de laxisme, Hervé, oui, dans les HLM?
Laxisme, je dirais pas forcément laxisme, mais à partir du moment où effectivement, comme cette famille, on voit que ils vivent en HLM et que les deux enfants ont quand même un papa et une maman qui sont présents, qui ne font rien. De témoignages que j'ai entendu de la mère qui les a expulsés, elle a expliqué que les parents ne sont jamais présentés aux convocations. Je veux dire oui, enfin il y a du laxisme à ce niveau-là, et après du laxisme de la part de l'État. Pas forcément, parce qu'on aide, on les aide déjà quelque part en leur donnant un HLM. Donc,
Oui, mais moi je pense que ce que les gens ne supportent plus, c'est qu'on a l'impression qu'on en fait toujours plus pour des gens à problème que pour les victimes, qui sont souvent des silencieuses, qui subissent, qui disent rien, qui ont peut-être d'ailleurs peur de genre de famille, parce que c'est des familles qui font un peu régner la terreur dans leur appartement. Et donc, si on n'agit pas, à un moment donné, forcément, on sait que ça terminera mal. Donc, tu vois, Frédéric, à un moment donné, Julie, il faut qu'on inverse les choses. Oui. C'est-à-dire que c'est les gens qui se comportent pas bien qui doivent être montrés du doigt et qui doivent subir les conséquences. Pas ceux qui essayent de vivre dignement dans des quartiers pas simples, d'élever leurs enfants, voilà.
Mais Olivier, on est d'accord avec ça.
Moi, je suis mille fois d'accord. Temps 1, la répression.
Exactement.
Mais si c'est temps 1, mais il n'y a pas temps 2, ça ne va pas. Pourquoi ?
Rien.
Parce qu'on ne règle pas le problème. Oui, oui. Et il y a derrière un autre problème qui est en sous-jacent de ça, c'est la crise du logement. La crise du logement qui est massive. Il n'y a pas assez de place dans les logements sociaux. L'accès au parc privé devient complètement délirant. Aujourd'hui, louer un appartement à Paris est un enfer généralisé. Et on ne parle pas de gens qui sont au SMIC, même des gens qui sont bien au-dessus du SMIC n'y arrivent pas. Le parc locatif, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui,
il y a raison de plus pour prioriser.
Et pour prioriser, oui, mais ensuite, il faut pas que on se retrouve dans une logique à l'américaine, comme on dit, not in my backyard, c'est-à-dire c'est pas chez moi, mais ça va être chez les autres. Donc le problème, si ça a un effet dissuasif. Bravo. Mais
tu te rachètes une conduite dans ces cas-là, tu te rends compte que tu déconnes et tu reviens dans le droit chemin. C'est comme le harceleur et le harcelé jusqu'à présent, c'était le harcelé qui devait quitter la classe.
C'est pas normal.
C'est le mec qui fout la merde qu'on fout dehors.
Sur ce que dit Frédéric,
tu réfléchis à ton sort, à ce que tu fais, à ta vie.
Par rapport au logement et aux garanties, et ce que nous dit aussi notre auditeur, par rapport au logement et aux garanties, c'est parce qu'une fois de plus, on protège celui qui ne paye pas. Si on avait une législation plus sévère envers les mauvais payeurs, peut-être que les propriétaires demanderaient beaucoup moins de garanties, mais les propriétaires, ils savent que quand ils font rentrer un locataire, ils en prennent un minimum pour 3 ans ferme, même s'ils ne paient pas son loyer. Donc, ils sont très, très, très vigilants. Si on inversait la loi, ça serait beaucoup plus, on demanderait beaucoup moins de garanties aux locataires, parce que les propriétaires sauraient que s'il n'y a pas paiement de loyer, ils peuvent facilement expulser le locataire. Et donc, aujourd'hui, c'est encore, à force d'une minorité de gens qui ne paient pas leur loyer, qu'on retrouve une majorité de gens qui ont du mal à trouver un propriétaire qui les accepte, alors qu'ils vont payer leur loyer, malgré des fois des revenus qui sont pas... Mais simplement, leur demande des garanties qu'ils ne peuvent pas donner, et ils payent pour une minorité.
Hervé, merci d'avoir été avec nous.
Ils sont protégés par la loi.
Hervé qui demande de la fermeté.
Par contre, ce que vous dites, ça vaut aussi, pour ceux qui ont un logement HLM et qui, économiquement, ne peuvent pas le justifier. On n'est pas que pour les... Eux aussi vous prennent votre place.
On va en parler avec Steve qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Steve.
Bonjour les GG.
Bienvenue Steve, bienvenue avec nous au 32-16. Donc est-ce qu'on doit expulser systématiquement les familles délinquantes?
Oui et non. Je vais faire bien en même temps.
On a déjà eu Beyrou ce matin.
Allez-y.
Il me fatigue lui. Je suis fatigué avec Beyrou. Parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut ressortir des personnes aussi mauvaises. Enfin bref. C'est pas grave.
C'est dit. Je vous en prie.
Petit aparté, juste pour Mourad, j'accepterai qu'on mette les casiers judiciaires vierges pour les appartements à partir du moment où on le fera pour les élus. Petite parenthèse.
Ah ben on est tout à fait d'accord.
Voilà.
C'est tout à fait anormal que pour être policier ou pompier, il faut un casier judiciaire vierge et pas pour être un élu.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les agents de sécurité
vous avez totalement raison.
Ils doivent avoir un casier judiciaire vierge. Et c'est des personnes qui sont là pour vous sauver la vie en cas de feu. Enfin bref.
Ah mais là, ça n'a rien à voir. C'est un métier qui exerce un pouvoir public. Là, on parle de se loger, qui est un droit fondamental. On n'est pas du tout dans l'exercice d'un pouvoir ni quoi que ce soit auprès d'une population. Je vois pas pourquoi on va demander un casier judiciaire à des gars, enfin, à une famille. On peut avoir, je sais pas, 40 ans, avoir un casier judiciaire, un extrait B avec une ligne.
Mais il y a casier judiciaire.
Parce qu'on a fait une connerie à 17 ans.
Alors allez-y, Steve, développez votre argument.
Je sais pas si c'est ça. Je trouve ça hyper discriminant et ça permet pas à la société de montrer aux gens qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, qu'on peut s'améliorer. Autant la résiliation du bail, moi, fait totalement sens que c'est une sanction qui répond à un problème actuel. Autant condamner quelqu'un toute sa vie qui aura pas forcément les moyens d'évoluer parce qu'il a eu une ligne sur son casier judiciaire, moi je dis non. Non
mais Steve n'a pas pu développer son argument.
Pardon, Steve.
Non, je suis désolé, c'est moi qui ai créé un autre débat sans le vouloir.
Allez-y.
Alors, par rapport à la famille, l'expulsion, à partir du moment où ils n'ont pas respecté le contrat, ça ne me dérange pas en soi. Ouais. Vous me avez donné une chose qu'on n'avait pas au début, c'est-à-dire l'âge des emmerdeurs. Qui sont majeurs. Donc les parents.
Non, mais enfin, il y a eu un parcours avant.
On peut les reloger dans un F2, ok, sans leur majeur et vacciné. Ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que le problème de l'expulsion, c'est que quoi qu'il arrive, ces gens-là, on va pas les buter. Donc, il va falloir qu'ils habitent quelque part. Moi, je suis du Val d'Oise. J'habite dans la région. Enfin, j'habite dans la région. Je connais Taverny, je connais tout ça. Là, aujourd'hui, je suis dans le privé. Ce qui m'emmerderait, c'est qu'on transmette le problème vers chez moi. Je travaille, je suis fatigué quand je rentre le soir. J'ai pas besoin de. Je fais en sorte d'augmenter mon niveau de vie et d'améliorer ma qualité de vie. J'ai pas besoin qu'on déplace le problème vers moi. Comme je disais au standard, lorsque vous avez mal à la tête, vous ne brisez pas le genou pour vous dire j'ai moins mal à la tête. On règle le problème. Et moi, ce qui me dérange et ce qui m'embête, et ce qui, pardonnez-moi le terme, mais ce qui m'emmerde profondément dans ce pays, c'est qu'on ne prend jamais le problème à la racine. Si les mecs sont comme ça aujourd'hui, c'est qu'ils sont pas devenus délinquants et du jour au lendemain. Il y a dû avoir des signes, il y a dû avoir des choses, il y a dû avoir des trucs qui auraient pu être traités depuis bien longtemps. Pourquoi on n'en retire pas aux familles défaillantes les enfants qui sont pas bons?
Mais Steve.
Laisser des gamins dans un univers, dans un environnement qui est défaillant, qui n'est pas sain, qui n'est pas bon pour eux, c'est le favoriser.
Après, on ne sait pas où les mettre non plus.
Après, le problème, c'est de l'aide sociale à l'enfance. Si on place des gens à l'aide sociale à l'enfance, on n'est pas dans la merde. Parce que là, les déficiences étatiques en matière d'aide sociale à l'enfance, je peux vous dire, c'est 400 000 gamins placés et c'est un enfant sur quatre qui finit à la rue. Donc, malheureusement, c'est une très bonne idée, mais il faut améliorer le système de l'aide sociale à l'enfance.
Non, mais Julie, je ne suis pas d'accord. Arrêter de faire des blabla politiques de base. Il y a des priorités, par exemple, avant la fessée, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, attendez, Steve, parce que je vous rate de vous interpeller.
Ce qu'il y a derrière cette idée que j'ai, c'est simplement un débat qui existe aujourd'hui sur la responsabilité des parents. Et le fait que, en cas de délinquance des enfants, il puisse y avoir des sanctions lourdes pour la famille, ça va responsabiliser les parents. Mais aujourd'hui, les parents qui se disent que mon gamin est deal, qu'il fasse ci, qu'il ça, qu'il roule en Porsche alors qu'il travaille pas et tout, il y a aucune incidence sur la famille, il y a aucune incidence pour nous, c'est pas bon. Voilà, que ça va responsabiliser les familles par rapport à l'attitude de leur enfant en se disant attention, si tu fais des conneries, on va tous payer. On va tous payer. Voilà.
Ouais, mais bon.
Vas-y.
Juste un point sur la question du deal, etc. Au bout d'un moment, les parents peuvent pas non plus régler le problème de l'environnement dans lequel on vit.
Oui, c'est-à-dire
qu'il y a
tout
un problème. Non, mais il y a quand même un problème régalien sur la table. Là. C'est à l'État aussi d'arranger quand même l'environnement qu'il y a au bas de l'immeuble. S'il y a des deals.
Julie, tu veux que je te montre l'environnement dans lequel j'ai grandi?
Bah, moi, je sais, j'ai grandi à Sarcelles. T'inquiète
et
pas
voilà,
que je suis pas.
Voilà. Eh ben voilà, au bout d'un moment, on peut pas t'excuser non plus.
Il y a des familles plus précaires, il y a des familles plus en difficulté que d'autres. Alors, certes, il y a une responsabilité parentale très importante. Il faut qu'elle soit tenue, mais ça ne tient pas qu'aux familles. Il y a aussi un rôle de l'État à jouer.
D'accord, Julie. Mais l'État, on aide beaucoup.
La police de proximité, typiquement, elle est où? Elle a été retirée en 2003 par Sarkozy. Grosse connerie.
Il y avait rien, il s'est passé rien dans les quartiers avant la police. On a l'impression que la police est aux proximités. Quand il y avait la police aux proximités, il n'y avait pas de délinquance, tout allait bien. On est en train de fantasmer
sur la
police
aux proximités.
Je vous rappelle que quand elle a été supprimée, c'était justement parce qu'il y avait eu des faits de délinquance très très graves et qu'à l'époque, on avait dit que la police aux proximités n'était pas assez répressive.
Le service militaire manque.
Sincèrement, ça, je ne l'ai pas connu.
Steve, merci d'avoir été avec nous, Steve.
Ah, je vous en prie.
Excusez-moi, juste une petite anecdote pour vous montrer dans quel état est le pays et pourquoi on est dans cette merde-là aujourd'hui. J'ai un enfant qui a aujourd'hui 16 ans, d'accord. Il y a quelques années, il était dans un petit quartier, un petit coin du 95, 90% de propriétaires, très peu de logements sociaux, voilà, bref. Il traînait avec des mecs qui voulaient se la raconter tout simplement. En heure de colle, il a insulté une personne. Ok, un enseignant, un encadrant, en heure de colle. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, je suis un petit peu à l'ancienne. J'ai sévi un petit peu là. C'est comme disait l'autre, je l'ai un petit peu chicoté. D'accord. Je me suis mangé une information préoccupante. J'ai été devant la. J'ai eu un procès. J'ai eu des assistantes sociales. Et j'ai tout ça. Ok, d'accord. La fessée, pas de problème, c'est pas de souci. Mais je fais partie des parents qui s'inquiétaient par rapport à son gosse, qui suivait le MD, qui était toujours présent aux réunions parents prof. Et voilà. Et toute la machine s'est mise en place pour ça. Alors qu'il y a d'autres enfants qui ont des parents qui sont déficients, je le dis qu'ils sont déficients, qui pour moi ne devraient pas être parents, qui ne sont ni encadrés, ni surveillés, ni remontés. Et c'est trop facile. Mmh. C'est beaucoup trop facile. Et là, le problème, c'est qu'on en a de plus en plus. Et ces actes-là, je vous le dis, les GG, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est la génération des 9, 12 ans sont encore pires.
Le problème de
fond,
merci d'avoir
le problème de fond, c'est qu'on a créé une société, on a créé et développé une société consumériste dans laquelle il y a des gens qui n'ont pas leur place. Voilà. Et on tant qu'ils n'auront pas leur place, le problème existera. Et je ne vois pas demain comment ils pourraient avoir leur place.
La question, c'est celle de la place.
Voilà. Délinquance, famille expulsée systématiquement des HLM. Et je remercie Steve d'avoir été dans les GG avec ces exemples. Qu'est-ce que vous en dites? Ah bah oui. Oui, 88%, 88,7% d'entre vous sont pour que ce soit l'expulsion immédiate. Le camp du laxisme.
Ouais. Mais non, très mais largement. Avec cette décision.
Rémi Farah et Julie Martinez se sont fait écrabouiller.
Pourtant,
Julie, félicitations.
Elle peut se rattraper dans le GG cette image. C'est une possibilité, une chance au grattage, une chance au tirage. Okay.
Allez, dans un instant, notre productrice Anaïs Sainz, on s'en fout, le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne pour essayer de pousser la campagne européenne de la majorité. L'Europe qui dit non à la nouvelle version de TikTok et les ailes du Moulin Rouge qui s'effondrent. Le symbole parisien, les ailes du Moulin Rouge.
Avant les Jeux Olympiques.
Avant les JO.
Un signal.
Aïe, aïe, aïe.
RMC.
9h midi.
Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les Grandes Gueules, c'est avec vous tous les jours. C'est au 32-16 que ça se passe. On discute, on débat. Vous témoignez avec nous, avec aujourd'hui Frédéric Farah, professeur d'économie, avec Julie Martinez, juriste, qui est des nôtres aussi. Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée. On y va pour le « On s'en fout, on s'en fout pas ».
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Les élections européennes, tiens. Emmanuel Macron à la rescousse aujourd'hui de la candidate Renaissance. Candidate Renaissance qui est Mourad ?
Valérie Ayé.
Dans le micro ?
Valérie Ayé.
Bravo.
Bravo. Ouais,
je voulais te piéger, mais ça n'a pas marché. La candidate Renaissance, donc en grande difficulté dans les sondages. Un président en campagne, donc, avec un grand discours prévu aujourd'hui consacré à l'Europe, à la Sorbonne. Alors, est-ce qu'on s'en fout ou pas ? Ma chère Julie, d'abord. Oui
on
ou
s'en
non
fout pas.
On s'en fout pas.
Non, Frédéric. On s'en fout pas.
Et Mourad. Alors, Frédéric.
Ouais, on s'en fout pas parce que Emmanuel Macron parle trop. Donc, déjà, premier élément, il va encore parler. Je suis pas sûr que ça va aider cette candidate. Je crois même que ça va la plomber. Parce que je crois que les Français, c'est pas qu'ils sont tellement marre de Madame Ayé parce qu'ils ne la connaissent pas. Et ils sont pas prêts à la connaître d'ailleurs. Mais je crois qu'ils n'en peuvent plus de la parole présidentielle. Et donc, il va redire à peu près la même chose. En plus, il revient dans le même endroit.
C'est un remake.
C'est-à-dire, c'est il y a 7 ans. Donc, c'est Macron 2.0.
Et en général, les remakes sont moins bons.
Et généralement moins bons. Il va raconter à peu près les mêmes choses. En plus, c'est terrible parce que j'ai de la peine pour elle parce que qu'est-ce qu'elle va devoir faire après le discours? Faire juste le relais de la parole pour dire
le service
président après-vente. Il a dit ça, etc. C'est le moment d'Arty, service après-vente. Donc, bon, très bien. Mais je pense que, est-ce qu'il peut se taire de temps en temps?
Julie. On s'en fout pas. Moi, ce qui m'agace le plus, c'est que le président de la République fait passer ce discours, donc cette conférence à la Sorbonne, pour un discours sur l'Europe complètement éloigné de la campagne électorale, donc de la campagne des élections européennes, alors qu'on est à un mois quand même du scrutin. Effectivement, son camp est pas très bien placé dans les sondages. Et on fait croire aux Français qu'on a juste, effectivement, après 2017, un remake pour avoir une grande stratégie sur l'Europe et que c'est complètement sans lien avec la campagne européenne. Sauf que c'est du temps de parole où il va pouvoir présenter son programme à la place de ça. Mais c'est un meeting. En plus, dans une université qui n'est pas censée être politique.
Ah bon, Jean-Luc Mélenchon passe sa vie à Sciences Po dans les facs en ce moment.
quand il peut y aller.
Quand il peut y aller, voilà.
Il était à Sciences Po, visiblement, il a été bien accueilli.
Ah bon ?
Oui, oui.
Mourad ?
Ben moi, je pense que c'est chronique d'une branlée annoncée et que ça va être compliqué, ça va être compliqué de la sauver. Ensuite, je ne suis pas sûr, par les temps qui courent, et ça me coûte de le dire, que la parole du président soit vraiment salvatrice pour un candidat. Je ne suis pas sûr que ce soit là.
Donc en fait, ce n'est pas la meilleure façon de l'aider.
Par contre, je serais assez curieux de connaître le DRH à l'Élysée qui a choisi Valérie Ayé, parce que je pense qu'il y a une faute, il y a une erreur de casting.
Il s'appelle Emmanuel Macron, le DRH.
Il y a une erreur de casting, ils s'en rendent compte. Mais oui. Même, elle est très gentille, mais bon. Elle est
Emmanuel Macron est ministre de tout.
Voilà, moi je trouve, alors je suis pas d'accord. Pardon, je vais la défendre Valérie.
Ah,
moi,
oui,
je vais la défendre parce que je pense qu'on lui fait porter un chapeau trop grand. Si elle est mal placée dans les sondages, c'est pas de sa faute. C'est parce qu'il y a un rejet d'Emmanuel Macron après 7 ans de pouvoir.
C'est ce que je dis.
Et que Valérie Ayer, visiblement quand même une bonne députée européenne. Après, on est d'accord ou pas avec ce qu'elle défend. Hein, mais je pense, on peut pas lui faire un procès d'incompétence. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment siégé au Parlement européen, qui est au fait quand même des sujets européens et plus que d'autres candidates ou candidats à ces élections en tête de liste. Donc je trouve qu'en fait c'est trop facile et que si le soir du 9 juin on dit bah c'est normal, c'est parce que Ayé était nul, parce que ça sera quand même à mon avis une mauvaise interprétation des résultats. Je pense que le problème c'est Emmanuel Macron.
Mais oui,
il y a une usure du pouvoir. On est 7 ans après, les Français vont vouloir le sanctionner.
C'est pas une élection du contenu, c'est une élection du contenant et le contenant manque de charisme. On peut pas dire le contraire.
Alors
on aurait besoin d'avoir un candidat à fort charisme.
Vous centrez le débat sur la question de la campagne, alors que c'est censé être un discours sur la stratégie européenne.
Mais c'est choquant
qu'on le laisse faire.
Et je vais dire un truc, je crois que globalement, les gens s'en foutent du Parlement européen, s'en foutent de la question européenne.
Ces élections,
c'est de moins en moins,
Frédéric,
parce qu'avec la crise du Covid, avec plein de choses qui se sont passées, on a vu le poids de l'Europe.
Oui, mais c'est pas au Parlement.
Bien sûr,
on enchaîne.
Les GG. TikTok fait marche arrière. Sous la pression de l'Europe, le réseau social chinois va suspendre sa nouvelle version TikTok Lite. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad ?
Avec une force que tu imagines même pas, ça me donne une idée de l'infini, tellement je m'en fous.
D'accord. Julie,
on s'en fout pas.
Et Frédéric ?
On s'en fout pas.
TikTok Lite, vous savez, les GG, c'est cette version qui offre des bons cadeaux aux utilisateurs qui passent beaucoup de temps sur le réseau. En gros, plus t'es accro, plus t'es récompensé. Mécanisme malsain, donc pointé du doigt par la Commission européenne. Programme de récompense, donc suspendu. Bras de fer remporté contre le géant chinois. Pourquoi on s'en fout pas, Julie ?
Moi, je trouve que c'est une super décision. On fait une génération de teubés avec TikTok. mais c'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire que même en Chine, le contenu qui est proposé par TikTok est différent de celui qu'on propose aux Européens. Les Chinois l'ont compris. C'est-à-dire qu'il y a du contenu un peu plus éducatif, scientifique. On essaye de stimuler les cerveaux des jeunes qui passent 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour devant des écrans. Moi, la première. TikTok, c'est complètement inutile et vraiment ça détériore le cerveau de nos jeunes. Et en plus, c'est une boîte qui fait preuve d'ingérence dans les affaires européennes. On ne sait pas ce que c'est. Cette boîte-là fait des données de nos jeunes. Elles sont pompées par les instances chinoises. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis très contente que la Commission européenne ait pris une décision.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et interdire TikTok aux États-Unis ? La question se pose. Hein.
Congrès à voter, bien sûr. Américain.
Fred ?
Pour une fois que l'Europe fait un petit truc, et de manière
Ils font beaucoup de choses.
Non, mais c'est bien, oui, je sais. Également, c'est bien parce que quand on téléphone en Italie et maintenant en France, on ne paye plus les frais comme avant. Donc, c'est bien, bravo, l'Europe fait des trucs. Comme il y en a, moi je me dis je m'en fous pas parce qu'il y en a toujours un petit peu. Mais si c'est tout ce qu'on a comme réponse à apporter dans la manière de numérique face à la Chine et face aux géants de la tech,
c'est un peu léger. Ça veut dire qu'on n'a pas pris la dimension du problème.
Mais non, mais je veux dire, on nous emmerde avec l'Europe souveraine, l'Europe qui protège et autres. Mais on est dans du.
Bah là, elle protège.
On a fait quand même
Léger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de force de frappe numérique, on n'a pas de vraie réponse face à ces problèmes.
On régule. Mais Frédéric, la réponse, elle arrive. La réponse, ça va être qu'on va créer une Europe avec des États qui seront des États fédéraux. La France sera un État fédéral de l'Europe.
Non, mais c'est comme
aux États-Unis. Que souhaitent les Européens en ce moment.
On va y arriver.
Moi, je pense que
on va y arriver tout droit et avec un président de l'Europe et on sera une fédération.
Je pense qu'on y va tout droit. On va pas trop dans cette direction parce que
c'est le projet, moi.
Non, mais parce que à la Commission européenne, à part Jacques Delors, tous ceux qui ont suivi après étaient absolument inconsistants. C'était le signe que les États voulaient garder la main dessus. Parce que quelqu'un peut me dire après Jacques Delors, c'est quelqu'un qui était à la tête de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, qui était une politique allemande complètement démonétisée.
On parlait d'erreur de casting.
Une politique allemande complètement démonétisée, qui a été ministre de la Défense, qui était nulle et archi nulle.
Et elle n'a pas changé.
Qui se souvient de Barroso, qui se souvient de Jacques Santer, qui se, même Romano Prodi, etc. Mais tous ces gens-là, mais qui s'en souvient.
Quelque chose de bien, je trouve dur, c'est une bonne décision.
On reproche souvent à l'Europe de subir, d'être assez naïve vis-à-vis de la Chine. Là, visiblement, alors les Américains sont en avance sur nous parce qu'ils sont beaucoup plus durs contre TikTok, mais ils s'aperçoivent qu'il y a un problème avec TikTok et que ce nouveau TikTok est addictif. Il fallait surtout pas qu'il arrive.
Allez, on enchaîne, Anaïs Sainz.
Et puis les GG, aucun blessé à déplorer, c'est un petit miracle. Hein. Les ailes du célèbre Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit sur la chaussée. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mourad?
Moi, je m'en fous parce qu'au Moulin Rouge, qui m'intéresse,
c'est Parce qu'au Moulin Rouge, qui m'intéresse,
c'est ce qui se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur.
Pénible. D'accord. Frédéric.
Non, on s'en fout pas.
Julie. Je m'en fous. Bon, une partie de la devanture du cabaret a même été arrachée dans la chute des ailes qui sont tombées donc sur la route. C'est le premier accident de ce type depuis la création du Moulin Rouge en 1889. Et la direction exclut tout acte de malveillance à l'instant. Pourquoi on s'en fout pas,
Frédéric?
Pourquoi on s'en fout pas? Parce que quand même le Moulin Rouge, c'est Paris. Et peut-être c'est un signe inquiétant pour la tenue des Jeux Olympiques.
Ah oui.
Et donc peut-être qu'il faut y voir que c'est un symbole de la capitale qui est en train de partir en cacahuète. Et que peut-être.
Non, mais là, on a évité le drame, parce que ça s'est passé au milieu de la nuit, donc il n'y a personne. Mais si ça tombe sur le public qui est devant.
Et puis c'est une institution pour rentrer, il y a des bus qui sont toujours stationnés.
Mais c'est très beau.
Alors, je ne sais pas,
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très beau le soir, parce que c'est éclairé. C'est un lieu quand même assez magique.
Et puis c'est hyper fréquenté, si c'était arrivé un week-end.
C'est l'image de Paris.
C'est l'image de Paris, avant les Jeux Olympiques.
Je vais vous raconter une histoire passionnante.
Les bonnes histoires de Tonton Marc.
Très longtemps.
Tu es animé au Moulin Rouge?
Bien sûr, il n'y a pas très longtemps.
Il faut expliquer que les conférences de presse de rentrée d'RMC et de BFM TV se passent au Moulin Rouge. Et Alain Marchal les présentait. Et une fois, il est arrivé avec un truc sur la tête.
Avec un truc en plume sur la tête. Sur la tête.
Et c'est d'ailleurs.
On ne veut pas savoir.
Un grand poster de moi à l'intérieur du Moulin Rouge. Non. Il n'y a pas très longtemps, effectivement, j'ai dîné dans un bistrot à côté. Puis comme il faisait bon, on est allé se promener un peu.
Ouais.
Exactement comme tu le disais, on est arrivé par une petite rue et d'un coup je me suis retrouvé face au Moulin Rouge qui était éclairé, il était 23h30. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas passé là. J'ai pris mon appât, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai repris une photo.
Comme un touriste.
Comme un touriste, parce que le Moulin Rouge, c'est vraiment un symbole de Paris.
On s'en fout pas.
Et il y avait des quarts de touristes et tout le monde est reculé comme ça et prenait la photo et j'ai joué le touriste. Donc voilà, il va falloir ce soir réparer, effectivement. Reconnais que cette histoire était passionnante.
Est-ce
que tu as senti le suspense monter?
Mais oui.
Parce que je suis parti du restaurant.
Mais moi, c'est pas compliqué.
Moi, je me croyais sur Netflix.
Moi, j'ai adoré, c'est surtout la petite rue, le restaurant à côté. Tu te rapproches comme ça et on se dit inoubliable, il rentre, que va-t-il faire?
Alors, il y a un enjeu. Il faut remettre les ailes avant les JO quand même.
Oui.
Parce que là, il va y avoir 10 millions de touristes
avant les JO.
10 millions de touristes, il faut que les ailes du Moulin Rouge.
Bien sûr.
Mais oui.
Bon, allez, dans un instant, suite des grandes gueules. Nous allons accueillir un homme qui lui-même s'est fait accueillir par des baltringues, traîne savates, racistes. Vous connaissez son visage, vous connaissez sa grande gueule. C'est Bernard de la Villardière qui sera avec nous. Le présentateur d'Enquête Exclusive. Et pourquoi il est dans les GIG? Parce que accueilli par des baltringues, des traîne savates, c'est lui qui le dit, c'est ce qui lui est arrivé.
Les faux taxis.
À Roissy, voilà, les faux taxis. Lui-même,
c'est un fléau, les faux taxis. Hein.
Traité de raciste. Les explications de Bernard de la Villardière avec nous dans les GIG, dans les Grandes Gueules.
RMC, jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.